Chapitre 14. Après un moment de silence causé par son embarras et par sa confusion, Madame d'Infreville reprit courage et dit à Monsieur de Luceval : Lorsqu'il y a 4 ans, monsieur, le mensonge dont Florence s'était rendue complice par dévouement fut découvert en votre présence, mon mari, quittant votre maison, me ramena chez lui. Là, je trouvai ma mère. Madame, me dit Monsieur d'Infreville, nous allons partir dans 1 heure avec votre mère. Je vous conduirai dans une de mes fermes du Poitou. Vous y resterez désormais seule avec votre mère. Son existence et la vôtre seront assurées à ce prix. Si vous refusez, dès demain, je plaide en séparation et je vous poursuis comme adultère. J'ai des preuves, des lettres peu nombreuses mais significatives, saisies par moi dans votre secrétaire. Je vous traînerai sur le banc des accusés, vous et votre complice, et à la face de tous, vous boirez la honte jusqu'à la lie. Vous irez ensuite en prison avec les femmes de mauvaise vie. Après quoi, vous et votre mère serez sur le pavé où vous mourrez de faim. Si vous voulez échapper à tant de misère et d'infamie, partez pour le Poitou. Ce n'est ni par compassion ni par générosité que je vous fais cette offre, mais parce que je crains le ridicule d'un scandaleux procès. Cependant, si vous me refusez, je braverai ce ridicule. L'infamie dont vous serez couverte me consolera. Ah ! S'écria M. de Luceval, je comprends toute la violence des ressentiments d'un cœur blessé, mais ce langage est atroce. Je devais tout entendre, tout souffrir, tout accepter, monsieur. J'étais coupable, et j'avais une mère infirme, sans ressources. Nous partîmes pour le Poitou, où M. d'Infreville nous laissa. La ferme que nous habitions était isolée au milieu des bois. Son vaste enclos, dont nous ne pouvions sortir, toujours soigneusement fermé. Je suis resté avec ma mère 18 mois dans cette prison, sans qu'il me fût permis ou possible d'écrire une lettre et d'avoir la moindre communication avec le dehors. Au bout de ce temps, je fus libre. J'étais veuve. M. d'Infreville, justement irrité, ne m'avait rien laissé. Ma mère et moi nous tombâmes dans une profonde misère. Mes travaux d'aiguille furent insuffisants à soutenir ma mère, et après une longue agonie, elle mourut. Valentine essuya une larme qui lui vint aux yeux, garda un moment le silence et, surmontant son émotion, continua ainsi. Dès notre retour à Paris, je m'étais informé de Florence. Je ne puis rien apprendre, sinon que vous étiez en voyage, monsieur. Je la crus partie avec vous. Dans ma détresse, j'eus le bonheur de rencontrer une de nos anciennes compagnes de couvent. Elle me proposa d'entrer comme institutrice chez sa sœur, dont le mari venait d'être nommé consul à Valparaiso. C'était pour moi une position inespérée. J'acceptai, je partis avec cette famille. C'est en revenant d'un voyage fait avec elle dans le nord du Chili que nous nous sommes rencontrés, monsieur. Quelque temps après mon retour à Valparaiso, des lettres d'Europe m'apprirent qu'une parente éloignée de mon père, bien que je ne la connusse pas, m'avait laissé en mourant une fortune modeste, mais indépendante. Je revins en France pour régulariser cette succession, et il y a 10 jours, j'ai débarqué à Bordeaux. Maintenant, monsieur, il me reste à aborder une question très délicate. Mais si embarrassante qu'elle soit pour moi, je l'aborderai. La franchise de vos aveux m'en fait un devoir. Et après un moment d'hésitation pénible, Valentine ajouta en baissant les yeux et devenant pourpre. Le complice de ma faute était votre cousin, M. Michel Renaud. Les quelques mots prononcés tout à l'heure à part vous, à son sujet, madame, m'avaient donné cette pensée. J'ai aimé, oh, passionnément, aimé Michel. Cet amour a survécu à toutes les cruelles épreuves par lesquelles j'ai passé. L'agitation, le mouvement d'un voyage qui m'intéressait beaucoup, on peut me distraire parfois de ce fol amour et apporter quelque adoucissement à mes peines. Mais mon affection pour Michel est aussi profonde à cette heure qu'il y a 4 ans. Vous comprenez, monsieur, si j'ai dû m'identifier à vos regrets et à vos chagrins, si j'ai dû apprécier tout ce que vous me disiez hier sur l'inexplicable empire que prennent sur nous certains caractères complètement opposés aux nôtres. En effet, madame, le peu de relations que j'ai eues avec mon cousin et ce que j'ai appris de lui m'ont prouvé qu'il était d'une telle indolence, d'une telle apathie, que dans les premiers temps de mon mariage, je le citais à Florence pour lui faire honte de sa paresse. Je les connais tous deux, monsieur. Il est impossible de rencontrer des caractères d'une plus grande similitude. C'est ce qui les aura sans doute rapprochés. Leur liaison aura sans doute commencé lors des premières visites de Michel. Et pourtant alors rien dans la conduite de ma femme ne pouvait éveiller chez moi le moindre soupçon. Mais la ruse aidant, on m'aura trompé.
Oh, il s'aime, madame, il s'aime, vous dis-je. L'instinct de la jalousie ne trompe pas.
Je devrais partager vos alarmes, monsieur, et pourtant je doute. Oui, je doute encore, monsieur, car si je me croyais oublié de Michel, j'aurais renoncé à la pensée de le revoir.
Vous doutez, madame, et ce logement, seulement séparé par un mur, et ses sorties, ses rentrées aux mêmes heures?
Permettez, monsieur.
Florence et Michel ne sont-ils pas libres, parfaitement libres?
N'est-elle pas légalement séparée de vous? Quel droit, désormais, auriez-vous sur elle?
Le droit de la vengeance, madame.
Et à quoi vous servirait cette vengeance, monsieur?
S'ils s'aiment, les plus rudes épreuves ne feront qu'augmenter leur amour, sans vous donner aucun espoir.
Non, non, vous êtes trop généreux pour vouloir faire le mal pour le mal.
J'ai tant souffert, madame.
Moi aussi, monsieur, j'ai souffert. Peut-être de plus grandes douleurs encore m'attendent, et pourtant, j'aimerais mieux mourir que de chercher à troubler l'amour de Michel et de Florence, si j'étais certaine de leur bonheur.
Mais pourquoi l'avez-vous suivi cette nuit, madame, au lieu de l'aborder franchement?
Parce qu'avant de me présenter à lui, je voulais tâcher de pénétrer le mystère de sa vie. Si cette découverte m'eût appris que lui et Florence s'aimaient, jamais ni lui ni elle n'auraient entendu parler de moi. Si au contraire, j'avais la preuve que Michel était resté fidèle à mon souvenir, ou qu'il est du moins libre de tout lien, je lui aurais proposé un mariage qui peut-être assurait le repos de sa vie.
J'ai moins de résignation, madame.
Alors quel était donc votre but en suivant Florence?
De la surprendre en faute, car son genre de vie me semblait suspect, et alors, armé de ce secret...
Ah, monsieur, toujours l'intimidation, toujours la violence.
Voyez, hélas, à quoi cela vous a servi?
Et mes prières, et mes larmes, et mon désespoir dont elle riait, à quoi cela m'a-t-il servi, madame?
À rien, sans doute.
Aussi, croyez-moi, ce qui a déjà été vain le serait encore.
Florence vous a donné des preuves de la fermeté de son caractère.
La supposez-vous changée? Erreur.
Si elle aime, sa volonté puisera de nouvelles forces dans son amour même. Et si vous vous vengez, vous n'aurez que le triste triomphe d'avoir fait le mal.
Du moins, je serai vengé, je tuerai cet homme, ou il me tuera.
Monsieur, si je vous croyais capable de persister dans de pareils projets, je n'aurais qu'une pensée, prévenir Florence et Michel du danger qui peut les menacer.
Vous êtes généreuse, madame,
dit M. de Luceval avec une sombre amertume.
Et vous aussi, vous êtes généreux, monsieur, lorsque vous ne cédez pas à d'aveugles ressentiments.
Oui, vous êtes généreux. Je n'en veux pour preuve que votre touchante sollicitude lorsqu'avant votre départ, et malgré votre désespoir, vous songiez à subvenir aux besoins de Florence.
C'était faiblesse de cœur et d'esprit, madame. Les temps sont changés.
Tout ce que je puis vous dire, monsieur, c'est que si vous espérez trouver en moi la complice d'une vaine et méchante vengeance,
nous devons à l'instant terminer cet entretien.
Si au contraire, vous voulez comme moi arriver à connaître la vérité, afin de savoir si nous pouvons espérer ou si tout espoir doit nous être ravi, comptez sur moi, monsieur, car en nous servant mutuellement, nous arriverons sans doute à la découverte de la vérité.
Et si la vérité est qu'il s'aime?
Avant d'aller plus loin, monsieur, donnez-moi votre parole d'homme d'honneur que si pénible que soit la découverte que nous pouvons faire, vous renoncerez à toute vengeance et même à voir Florence.
Jamais, madame, jamais. Aimez à votre manière, j'aime à la mienne.
Soit, monsieur,
dit Valentine en se levant.
Nous agirons donc isolément et comme bon vous semblera.
Mais madame, je ne puis pourtant pas...
Vous êtes libre de vos actions, monsieur?
De grâce, c'est inutile, monsieur.